sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Et comme à chaque lundi midi, j'ai toujours le plaisir d'avoir avec moi en studio le président directeur général de la Société du Parc, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, prêt pour une autre bonne émission, bien chargé encore.
Oui, oui, les semaines filent.
Oui, c'est déjà. Et comme à l'habitude, Donald, ben, tu seras disponible en deuxième partie d'émission pour répondre aux questions du public. Et d'ailleurs, pour transmettre vos questions, il suffit d'aller tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et de cliquer sur « Poser vos questions ». Ou sinon, on peut le faire par texto et aussi par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050. On peut le faire durant la semaine, mais on peut le faire durant l'émission. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions à Donald, qui se rend disponible chaque semaine pour répondre à vos questions. Et on va garder d'ailleurs notre bonne habitude en début d'émission, Donald, de faire un retour sur l'actualité. Et la semaine dernière, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, qu'on avait eu le privilège de recevoir en studio récemment. Il est revenu faire un tour à Bécancour pour une deuxième fois en quelques semaines dans le parc industriel. Donc, cette fois, c'était pour une annonce particulière. Est-ce que tu peux nous en parler de cette annonce-là?
Oui, c'est une annonce. La ministre est venue annoncer qu'elle réinjectait 250 millions dans Nemaska Lithium. Les deux partenaires, évidemment, Investissement Québec, c'est le bras du gouvernement, le bras financier du gouvernement. Mercadium Lithium aussi réinjecte 250 millions. Donc, le projet se poursuit, va quand même bien. Puis, c'est une décision du gouvernement de soutenir l'entreprise pour qu'elle puisse avancer avec tous les projets qu'elle a. Faut se souvenir qu'il y a toujours la mine à Wabushi et en plus de l'usine à Bécancour.
Parce qu'effectivement, cette usine va apporter une valeur ajoutée au lithium extrait du sol québécois, là, en plus de contribuer à développer une expertise dans un secteur en pleine émergence. Donc, c'est une belle annonce qui a eu lieu la semaine passée.
Oui, c'est une belle annonce, un gage de confiance en l'entreprise. Et puis, ça a été vraiment intéressant. La ministre a fait le tour aussi de l'usine. Donc, elle a eu droit à une visite de l'usine. On a pris pratiquement 45, si ce n'est pas 60 minutes pour visiter le site.
Wow.
Fait que c'était vraiment intéressant. C'est quand même toujours impressionnant de voir ces usines-là. Là, quand même beaucoup de pièces d'envergure, des gros bâtiments. C'est concret. Quand on va sur le site, là, on voit vraiment que tout ça prend forme.
Puis je pense que ça vaut la peine de rappeler que ce projet va générer plus de 1500 emplois durant la phase de construction des infrastructures et plus de 450 emplois permanents pendant leur exploitation, dont 175 à l'usine de Bécancour. Donc, c'est un projet qui représente des 2 milliards d'investissements en tout. Donc, c'est vraiment un joueur important dans le parc industriel au niveau de la filière batterie. Là.
Oui, oui, effectivement. Puis on parlait du nombre de travailleurs de la construction. C'est sur le point de doubler dans les prochaines semaines. Là. Donc, wow. Entre aujourd'hui et le mois de janvier, ça devrait doubler. Là. Donc, passer de 400 quelques environ 800 à 900 000 travailleurs. C'est sûr que ça amène un stress additionnel encore sur les axes routiers puis sur l'habitation court terme.
Donc, la ministre Fréchette prend une bonne habitude de venir nous visiter.
Oui, j'aime ça. J'aime ça.
Je vois que le PDG du parc est très heureux de ça et j'en suis convaincu.
Mais c'est intéressant parce qu'elle s'intéresse à Bécancour. Il y a des choses concrètes qui se passent à Bécancour. Et puis, l'idée, c'est pas de survendre Bécancour, mais que les gens comprennent bien ce qui s'y passe.
Excellent. Autre sujet d'actualité, évidemment, on peut pas passer sous silence l'élection de Donald Trump. Bon, évidemment, son élection... évidemment, l'idée, c'est pas de t'amener sur le terrain politique, là, mais quand même, cette élection-là, Donald Trump, changement de philosophie, évidemment, aux États-Unis qui s'en vient. Bon, il y en a qui déjà s'inquiètent de l'impact de ses futures politiques économiques qui ne devraient pas favoriser nécessairement le véhicule électrique. Alors, bon, est-ce qu'on craint des répercussions à moyen, long terme dans le parc industriel par rapport à la filière batterie ou c'est trop prématuré, évidemment, mais quand même, est-ce que cette crainte-là avec ce changement de gouvernement américain?
Ben, personnellement, je ne suis pas de nature très craintive, mais la Société du Parc, c'est sûr qu'il faut regarder ça puis vraiment s'ajuster. On est beaucoup plus dans le mode d'observer puis de voir comment tout ça peut réagir. Il y a des projets qui sont actifs, les investissements vont de l'avant, il y a aussi des entreprises américaines qui s'installent à Bécancour, donc ces entreprises-là veulent continuer à faire des affaires au Québec et aussi aux États-Unis par la suite. C'est sûr qu'on observe, tout ce qui se passe. C'est sûr que, comme bien les gens, j'avais une opinion personnelle sur ce qui est arrivé la semaine dernière. À part le prénom, j'ai pas beaucoup de choses en commun avec
oui, <c'est vrai. rire>
le futur président. mais cela étant dit, faut juste observer. Puis c'est sûr que ça va faire jaser beaucoup. Mais si on regarde en avant de nous, dans les deux prochaines années, là, on a des élections municipales.
Oui.
On a des élections fédérales qui s'en viennent. Ça, c'est dans 12 mois. Là. Donc, d'ici les 12 prochains mois, municipales et provinciales, excusez, et fédérales.
Et provinciales dans provinciales deux ans.
Provinciales dans deux ans. Mm-hmm. Donc, ça, c'est toutes des situations qui vont faire en sorte que les gens qui vont aspirer à des postes vont avoir une opinion sur ce qui se passe à Bécancour, sur la filière batterie. Quelles seront leurs opinions? Je vais les découvrir en même temps que vous pendant les différentes campagnes. Mais c'est sûr que, ça, comme on dit, ça peut mettre un peu de bruit sur la ligne ou d'incertitude parce que les partis politiques pourront avoir des opinions différentes sur ce qui se passe. Mais il va y avoir trois élections dans les deux prochaines années. Fait que oui, celle qui est arrivée est importante en termes de signal. Ça donne un signal, OK, qu'il faut vraiment... faut pas penser que les quatre dernières années sont représentatives de celles qui vont suivre, mais faut regarder ça puis être capable de s'ajuster, mais on n'a pas beaucoup d'emprise sur ça.
Donc, on va y aller tout de suite avec notre sujet du jour parce qu'il y a deux semaines de mémoire, on avait commencé à découvrir et à faire découvrir les entreprises existantes dans le parc. Bon, parce que là, on parle de la filière batterie. La semaine dernière, on a eu le privilège d'avoir la direction de Ultium Cam dans nos studios. Donc, oui, la filière batterie, c'est important. Puis effectivement, ça va être important dans les prochaines années. Mais le parc industriel existe depuis plusieurs années. Il y a des entreprises existantes qu'on a commencé à faire découvrir à nos auditeurs, auditrices. Puis on veut continuer à le faire cette semaine, prendre du temps pour parler de ces belles entreprises qui sont dans le parc depuis un certain temps. Puis je découvrais aussi en préparant l'émission que beaucoup de ces entreprises-là ont même changé de nom au fil du temps. Donc, c'est intéressant. Peut-être on pourrait commencer avec Arkema, qui a déjà porté d'autres noms. Mais aussi, quand on pense à Arkema, de quoi s'agit-il exactement?
Oui, donc Arkema, c'est une compagnie française, donc une soixantaine d'employés. Anciennement, Chemprox Chimie, Oxychem Canada, donc une entreprise qui roule depuis fin des années 80 à Bécancourt. Donc, puis effectivement, l'idée de parler de ces entreprises-là, c'est oui, il y a la filière batterie, puis c'est vraiment stimulant d'accueillir ces entreprises-là, mais il y a déjà un écosystème, il y a déjà des entreprises dans le parc qui sont établies, qui font les choses correctement, puis c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi. Pour que les gens comprennent bien tout ce qui arrive, il faut parler aussi de ce qu'il y a déjà dans le parc. Et puis, Arkema, ce qu'il produit, c'est du peroxyde d'hydrogène. Donc, le peroxyde d'hydrogène, évidemment, il y a un lien avec Air Liquide de l'autre côté de la rue qui produit de l'hydrogène. Mais vraiment, eux, ce qu'ils font, c'est un des principaux producteurs mondiaux dans le secteur du peroxyde d'hydrogène. Évidemment, le secteur qui est visé, les secteurs visés, c'est l'industrie chimique, les détergents, cosmétiques, l'industrie électronique, l'environnement, les mines. Donc, ces produits-là sont utilisés dans plein de sphères. Beaucoup de pâtes et papier pour le blanchiment des pâtes et papier. Puis évidemment, on sait qu'il y a certains marchés qui évoluent, donc pâtes et papier, c'est un peu en déclin, mais il y a d'autres marchés qui sont en émergence. Et puis, ce qui est intéressant de souligner, on essaie de développer un écosystème avec ce qui arrive à Bécancour, mais Arkema fait partie des entreprises déjà dans le parc qui ont le choix de s'insérer dans l'écosystème de la filière batterie.
D'accord.
Parce que le peroxyde d'hydrogène est requis dans le traitement des minéraux critiques qui est requis pour la filière batterie. Donc, eux, ils auront le choix de dire « OK, j'ai un client à 500 km ou à 1000 km ou à 3-4 km de chez moi. »
Donc, peut-être des opportunités d'affaires pour Arkema. Là.
Oui, peut-être, parce que ça leur appartient. Mais assurément, c'est des opportunités additionnelles qu'ils n'avaient pas avant, qu'ils vont avoir dans les prochaines années.
On pourrait parler d'une autre entreprise aussi. Bon, moi, à l'époque, je l'avais connue comme étant Petresa, je pense, devenue par la suite Cepsa, puis tout nouvellement avec un nouveau nom que je vais te laisser prononcer. Donc, l'usine Cepsa, bon, anciennement Petresa et nouvellement, c'est comment ça s'appelle maintenant?
Ben, c'est une bonne question, Marc. Écoute, je pensais que tu allais t'essayer avant moi pour pas que je fasse d'erreur, là, mais Moëvé, donc c'est un peu le nouveau nom de l'entreprise. Évidemment, moi aussi, je l'ai connu sous le nom de Petresa à l'époque. Mm-hmm. J'ai beaucoup d'amis qui sont rentrés là, même âge que moi, qui sont entrés au début l'opération de cette usine-là. Cepsa qu'on connaît aujourd'hui,
ouais, c'est
ça. Et Moëvé qui prendra certainement quelques années avant de rentrer dans la tête des gens et dans la mienne aussi.
Ouais.
mais un projet, environ 80 employés chez Moëvé, Cepsa. Et puis, c'est l'alcali benzène linéaire qui est produit là. Dans le fond, qu'est-ce que c'est l'alcali benzène linéaire? C'est vraiment la molécule utilisée pour les détergents puis les savons. Vraiment, c'est le marché qui est ciblé par eux. Environ 3 % de la demande mondiale est adressée par cette usine-là. Et Cepsa, Cepsa est une des usines qui utilise aussi le port, le port de Bécancourt pour du vrac liquide, autant en entrée qu'en sortie. Le produit fini pourrait partir par bateau, par train parfois, par camion, mais aussi la matière première aussi peut arriver par bateau.
Aussi, une autre entreprise qui a changé de nom, je pense, au fil du temps, anciennement SKW, à moins que je ne m'abuse, qui est devenu Silicium Québec Ferroglobe, est-ce que c'est bien ça?
Oui, c'est ça, les noms changent, puis anecdote personnelle, mais c'est la première usine où mon père a travaillé dans le parc.
Ah oui, c'est vrai, wow, intéressant.
Quand t'es arrivé en Gentil, début des années 70, mon père a travaillé à la construction de cette usine-là.
Ah oui,
c'est sûr que wow. J'en ai entendu parler
donc,
souvent quand j'étais jeune. Là.
Familier avec cette entreprise.
Ben, familier, oui et non, dans le sens que j'ai été la visiter, mais j'y ai jamais travaillé. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est une des premières usines. Après Biragui, c'est elle qui a suivi. Milieu des années 70, anciennement SKW, propriété d'Américains. Et puis vraiment, ce qu'ils font, c'est du silicium métallique. C'est un alliage à la base de manganèse. Puis à la base de silicium. Fait que donc, un peu ce qui rentre dans cette usine-là pour le procédé, on a du quartz, copeaux de bois, du charbon, des électrodes, mais ce qui ressort, c'est vraiment un produit, le silicium, pour l'industrie de l'aluminium, l'industrie chimique. Et puis vraiment, ça rentre dans les silicones, les panneaux solaires et tout ça. Ça fait que c'est vraiment une usine qui est là depuis longtemps puis qui a comme une production assez stable dans le temps.
Donc, les trois usines qu'on a parlé jusqu'à date, Arkema, bon, Cepsa, nouvellement Moévi ou Silicium Québec Ferroglobe, ces trois entreprises-là sont dans le parc depuis un certain temps. Au fil du temps, ils ont quand même été stables, comme tu dis, ont consolidé leurs activités, peut-être diversifié dans certains cas, mais c'est des bons exemples d'entreprises qui ont su quand même rester pérennes là, au fil du temps. Là.
Oui, c'est des changements de propriété, changements d'actionnaires. Quand souvent les changements de nom arrivent, c'est souvent parce qu'il y a eu un propriétaire, il y a un propriétaire nouveau. C'est pas le cas dans le cas de Moévé, je crois. Mais souvent, ça signifie un changement d'actionnaire. Mais c'est des entreprises qui sont là depuis longtemps.
D'accord.
Effectivement. Et puis, faire le lien avec la filière batterie, c'est sûr que quand on construit une usine de... un demi-milliard, un milliard.
On est là pour rester.
Bien, quand les gens regardent ça, la durée de vie d'une usine, c'est 35-40 ans. Bien, il faut que l'usine se paye sur cet horizon de temps-là. Fait que quand les gens arrivent, c'est vraiment pour l'opérer, à moins d'imprévu. Hein, on en a déjà vu, là, comme Norsk Hydro. Norsk Hydro qui est parti à peine 15 ans, peut-être. Là. Mm-hmm. Mais normalement, les gens veulent opérer sur une période plus longue. Là.
Peut-être avant d'y aller avec une autre entreprise, on va peut-être se garder une quatrième entreprise après la pause. Mais avant d'aller à la pause... Des entreprises existantes, lorsqu'ils voient arriver, elles ont vu arriver les grands joueurs de la filière batterie, est-ce que ça crée une sorte de... Comment ça a été accueilli? Est-ce que ça a été accueilli avec enthousiasme parce que là, on crée un écosystème plus grand ou peut-être une crainte de perdre des employés ou quoi que ce soit? Là?
C'était un mélange des deux. C'était un mélange de percevoir ça comme une menace, puis je vais l'expliquer un peu ce qu'ils voyaient, et d'opportunité. Menace, c'était beaucoup relié aux emplois. Donc, il y a un autre joueur, il y a d'autres joueurs qui s'en viennent. On a déjà de la misère à recruter. Qu'est-ce qui va arriver si ces joueurs-là arrivent? Ça va-tu nous complexifier la vie ou pas? Fait que menace, c'était beaucoup sur l'aspect main-d'œuvre, mais opportunité, c'est sûr qu'il y en a qui voient des opportunités. Et puis, opportunité pour avoir des liens d'affaires, mais c'est sûr que les gens comprennent que ce qui arrive là, la filière batterie, transition énergétique, bien, c'est une thématique, c'est un sujet porteur, c'est un sujet bon pour le futur. Ça fait que les gens voient ça comme une opportunité. Et clairement, pour que le milieu se développe, il faut que les emplois arrivent avant les services. Fait que donc, si on veut avoir plus de services dans la région, ben, ça prend des gens qui s'y établissent. Et puis par la suite, les services suivent. Donc, c'est un mélange de menaces et d'opportunités encore aujourd'hui. Et l'ABI m'avait fait venir pour que je leur présente ce qui s'en venait, autant à l'équipe de direction qu'au syndicat. Et puis, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Sachant ce qui arrivait, ils ont fait une campagne de recrutement. Et puis, ils ont fait un recrutement ciblé, entre autres, sur les femmes. Et puis, eux, ils ont dit « OK, on voit ça arriver et on s'ajuste ». Puis, évidemment, c'est pour ça que moi, j'en parle souvent. Écoutez, on peut se sentir victime d'une situation, mais en même temps, une fois qu'on comprend la situation, on peut toujours faire des initiatives. Et c'est ce que l'ABI est un bon exemple d'initiative qui a été faite pour ne pas être vulnérable face à la filière batterie.
Donc, l'état d'esprit quand même positif en général du côté des entreprises existantes par rapport à ce qui se passe. Là.
Oui, positif, mais quand même réaliste. C'est positif, mais réaliste de dire, OK, moi, au quotidien, je dois opérer mon usine et je veux continuer à l'opérer.
Donc, c'est très fort intéressant, Donald. Et après la pause, on va revenir avec une autre entreprise. Donc, d'ici la pause, on va inviter nos auditeurs, auditrices à saisir le téléphone, saisir le texto et à nous contacter au 819-519-9050 ou aller sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et cliquer sur « Poser vos questions ». Et n'hésitez pas à poser vos questions, Donald est disponible et après la pause, donc on reviendra avec la suite des entreprises existantes, mais aussi à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, 819-519-9050, 819-519-9050.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous sommes de retour avec, évidemment, Donald Olivier, président-directeur général de la Société du Parc, et on poursuit et on complète notre tour d'horizon du parc dans les entreprises existantes avec Air Liquide, qui aussi portait un nom différent à l'époque, je pense, Hydrogénal de mémoire. Donc, Air Liquide, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Mais c'est là depuis quand même un certain temps. Oui,
1987, l'année que ça a commencé à produire, entreprise Air Liquide qui appartient à la compagnie d'intérêt française. Et puis, vraiment, ce qui se passe là, service de séparation d'air, mais aussi production d'hydrogène liquide et hydrogène gazeux. Cet hydrogène-là est revendu à certaines entreprises du parc, mais aussi ça part en camion pour différents besoins un peu partout au Québec. Et puis en 2021, c'était le plus grand usine au monde là, pour ce qui est de la production de l'unité d'électrolyse à membrane. Là, mm-hmm. C'était la plus grosse monde en 2021. Donc, j'ai compris que ça avait changé depuis ce temps-là. Mais ils ont comme augmenté leur production 50% avec cet ajout-là en 2021. Et puis, Air Liquide ont l'hydrogène, mais aussi le service de séparation d'air. Et pour que on avait parlé d'Air Liquide aussi avec les 5 projets.
Oui.
Parce qu'il faut comprendre qu'Air Liquide a son usine actuelle, anciennement Hydrogénal, au coin Raoul Duchesne et Alphonse Déhaye, en direction vers le port. Mais la nouvelle usine d'Air Liquide est tout près de nos bureaux, près de la tour d'eau de la ville. Là, on le voit, elle est juste adjacente à l'autoroute 30. Donc, cette usine-là ne produira pas d'hydrogène, mais la nouvelle usine en construction va offrir des services de séparation d'air, oxygène, argon, azote pour les usines de la filière batterie qui sont tous à proximité. Et donc, Air Liquide est là avec son usine existante et est en construction pour une nouvelle usine totalement là, dans le parc, de 230 millions.
Et c'est en pleine construction, là?
Oui, en pleine construction. Ça fait partie des 5 projets dans une des émissions qu'on avait abordées. Et puis, il y a plein d'autres entreprises dans le parc, puis on pourra peut-être faire un autre segment parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de services. Lorsqu'on a pris la peine de parler depuis, sur deux émissions, on a parlé des usines qui ont des procédés puis qui sont comme les usines les plus importantes en taille. Mais il y a d'autres entreprises, puis je ne commencerai pas à nommer parce que je vais oublier. Non. Mais il y a une quinzaine d'entreprises de services qui sont établies dans le parc et on pourra peut-être faire mener un segment là-dessus pour les mettre en valeur aussi parce que ça aussi, c'est un petit écosystème qui existe dans le parc.
Si je comprends bien, s'il n'y a pas de filière batterie, il n'y a pas de nouvelle usine pour Air Liquide nécessairement.
Assurément. Donc, cette usine-là, c'est carrément en lien avec la filière batterie. Ce 230 millions-là d'Air Liquide, il n'existe pas si la filière batterie n'est pas avec en cours.
Bel exemple de synergie, de retombées positives et concrètes dans le parc. On y va tout de suite avec les questions du public, si tu le veux bien, Donald. Une question de Jean-Sébastien qui demande, la voie de desserte, à quand l'utilisation prochaine de cette voie de desserte-là? Est-ce qu'on peut en parler davantage?
Oui, la voie de desserte, puis c'est relié aux deux intersections. Ça fait que, pour nous, de notre côté, la Société du Parc, on s'occupe de la voie de desserte. On a encore la cible de fin décembre. C'est toujours comme ça, sa construction en cours après Noël pour finir les travaux. Fait que c'est notre cas aussi. Et puis, le ministère des Transports qui font un élargissement de l'autoroute 30 vis-à-vis de la première lumière, là, près de l'Hôtel de Ville et l'Arena, ils ont justement fini un côté. En fin de semaine, le trafic a été transféré du côté nord, c'est-à-dire. Et il avance avec les travaux du côté sud, mais ça avance quand même assez rondement. Fait que tout est pavé pour une portion de l'intersection. Fait que vraiment, la cible qui est visée, c'est encore fin décembre. De notre côté, pour ce qui est de la voie de desserte, il y a juste un petit questionnement qui se pose. Est-ce qu'on sera capable de tout paver avant que la météo se corse? On a quand même un bout de pavé. Mais le pire, de notre côté, du côté de la Société du Parc, le pire qui pourrait arriver, c'est qu'on aurait un tronçon qui serait plus en gravier pour jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Mais assurément, ce qu'on va avoir d'ici Noël, c'est une façon de sortir additionnelle des entreprises du parc, les Nemaska Lithium et Lithium Cam, là, qui a beaucoup de congestion dans ce secteur-là. Ça fait que cette option-là va apparaître d'ici Noël.
Peut-être une question qui me vient à l'esprit, qui n'est pas du public nécessairement, mais j'étais un petit peu intrigué de savoir, il y avait déjà eu des problématiques de chasse dans le parc industriel. Là. Peux-tu faire le point là-dessus? Là?
Oui, bien, c'est que ça a toujours été interdit, mais là, on applique un peu mieux dans le sens que c'est sûr qu'on ne croit pas qu'il y a une compatibilité entre la chasse et la présence d'industries lourdes. Mm-hmm. Donc, la chasse à proximité des entreprises lourdes, c'est pas souhaité. C'est sûr que c'est des terres privées dans le sens qu'ils appartiennent à la Société du parc. Il faut voir que nous, on fait plein d'études. Fait que donc, souvent, des biologistes se promènent sur le terrain ou carrément des investisseurs qui font les revues diligentes. Fait que donc, on souhaite avoir un environnement sécuritaire. Fait que donc, c'est sûr que ça peut amener... quand il y a des habitudes qui sont là depuis longtemps, bien, c'est sûr que ça peut amener des fois des insatisfactions. Mais c'est clairement pour une raison de sécurité, autant pour les usines que pour les gens qui circulent à proximité.
Donc, cela a le mérite d'être clair. Il n'y a pas de chasse permise dans les limites de chasse,
trappe, des trucs comme ça. C'est sûr que dans le zonage industriel lourd, on ne voit pas que c'est compatible avec ce qui s'y passe.
Mm-hmm. J'aimerais revenir brièvement sur ta présence encore récente à la conférence internationale sur les batteries au lithium avancées pour les applications automobiles qui avait lieu à Montréal. C'était intéressant cette conférence-là?
Oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de recherches qui se fait. Et puis moi, je suis plus un généraliste, fait que parfois c'était comme ardu à suivre. Mm-hmm. C'était vraiment une conférence de spécialistes.
De sommité, là.
Oui, oui, oui. Mm-hmm. Ça arrivait de partout dans le monde. Ça a été intéressant d'entendre des trucs. On voit différentes technologies qui s'étudient. Tu sais, les gens, des fois, me posent la question, les batteries tout solides ou différentes technologies. Mais vraiment, les gens travaillent à trouver... à trouver peut-être d'autres types de batteries, mais c'est vraiment l'enjeu de stabilité. Hein? De dire, OK, j'ai fait une batterie chez moi, après ça, OK, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle est sécuritaire, opérée? Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'analyses qui se fait là-dessus. Et puis c'est sûr que moi, j'ai été surpris. Ben, c'est Karim Zaghib, une des sommités au Québec.
Qui en était le président, je pense.
Oui, c'est ça. C'est lui qui a amené cet événement-là à Montréal. Écoute, j'ai oublié les dates, là, tout va vite. Là, mais,
oui, c'est une couple de semaines après.
Je regarderais mon agenda, je les connaîtrais, mais écoute, j'essaie plus de me souvenir de mon agenda en avant de moi qu'en arrière, là, pour ne pas manquer de rendez-vous. Mais vraiment, c'était impressionnant de voir la quantité de monde qu'il y avait là, puis les sujets d'actualité. Et il faut quand même, Karim va venir ici, normalement, il est cédulé avec nous le 25.
Le 25 novembre, ouais. Effectivement. Alors, on aura le privilège de recevoir... ce scientifique de renommée mondiale, vraiment spécialisé dans les batteries rechargeables. Alors ça, c'est vraiment tout un privilège qu'on aura le 25 novembre.
Oui, on va avoir le privilège de l'avoir, puis c'est sûr que ce qu'il va nous amener, puis il va l'amener à sa façon, puis d'une façon différente de moi, mais tu sais, clairement, les matériaux de batterie qui se passent à Bécancour, c'est des matériaux de batterie qui sont indépendamment de la chimie de la batterie. Tu sais, mon exemple est peut-être farfelu, mais ça prend de la farine pour faire du gâteau, peu importe le type de gâteau. Ben, les matériaux de batterie pour les anodes et les cathodes, peu importe la chimie de la batterie, ça va en prendre. Fait que donc, les gens qui se questionnent, ben, les usines vont-tu fermer dans 4-5 ans parce qu'il y a une autre technologie? Ben, Karim va être...
Ça va être intéressant.
Ah oui, ça va être la personne tout désignée pour répondre à ces questions-là, parce que moi, j'ai tout posé ces questions-là quand je suis arrivé en poste.
Bon.
Je voulais surtout pas construire de quoi qu'il n'y aurait pas de futur. Ça fait que là, on posera toutes les questions, tu poseras les questions, puis j'interagirai vraiment pour donner le son de cloche localement.
Parlant d'un rendez-vous important, il y a un rendez-vous au consul général de la Corée du Sud cette semaine pour toi, je pense.
Pour moi et pour d'autres personnes, évidemment... les gens, on le dit souvent, la Corée est présente à Bécancour. Pourquoi elle est présente? C'est que les entreprises qui ont choisi de s'établir à Bécancour sont sud-coréennes. Les Américains, GM, entre autres, ont choisi sa filiale POSCO, qui est une sud-coréenne, et CoproBM, POSCO, Mirae, qui est dans le parc aussi. L'objectif de la rencontre, c'est clairement de une opportunité de créer des liens. Mm-hmm. Et donc, ces entreprises-là sont arrivées vite, hein?
Wow.
Sont arrivées très vite. Mm-hmm. Sont arrivées avant même qu'elles soient annoncées. Puis l'objectif, c'est de créer des rapprochements entre les deux pôles. Il y aura des gens de la ville qui vont être là, des gens de l'Investissement Québec, des gens de la Société du Parc, et puis évidemment les entreprises sud-coréennes et le consulat sera là aussi.
Bon, donc cette semaine.
Oui, mercredi soir à Montréal.
Super. Puis en parlant de rendez-vous importants ou d'annonces importantes, si la tendance se maintient, on aura peut-être une annonce à faire lors de notre émission de la semaine prochaine. On ne veut pas vendre le punch. Jusqu'où on peut aller dans ça?
Ben, écoute, là, mettons, moi, comme je ne suis pas politicien, Marc, je ne ferai pas l'annonce. Fait qu'on va reprendre l'annonce qui a été faite. Hein? Fait que, tu sais, si la tendance se maintient, il y aura probablement une annonce la semaine prochaine. Et puis, la ministre l'avait dit elle-même là, quand elle était venue à sa visite chez Copro. Que probablement qu'elle avait dit aux médias, ben, attendez-vous que je revienne quelque part à la mi-novembre. Donc, on devrait avoir des trucs, il devrait avoir des choses qui s'annoncent la semaine prochaine. Et puis, on pourra, si tout s'est annoncé, on pourra amener les détails entourant cette annonce-là.
Tout ça pour dire, auditeurs, auditrices, soyez des nôtres lundi prochain à midi parce qu'on aura peut-être quelque chose de très important à annoncer. Donc, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais soyez des nôtres. Comme à chaque lundi, on vous invite d'être avec nous. On vous invite d'être avec nous, pardon, pour cette émission, Le Parc en 30 minutes. Merci encore, Donald, de t'être rendu disponible pour cette autre émission. Donc, je pense que c'est pas dit qu'on ne reviendra pas sur les entreprises existantes, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres.
Oui, il y en a beaucoup d'autres. On va tenter de les faire venir. Et puis, tu sais, moi, j'apprécie la tribune dans le sens qu'on adresse les préoccupations, les questions des gens. Puis vraiment, j'invite encore les gens à ne pas se gêner de poser des questions. C'est comme une tribune privilégiée. Je me sens privilégié d'être capable de parler de ce qui se passe dans le parc. Et puis, merci de la pertinence des questions.
Aussi, le bel exemple qu'on a eu la semaine passée avec Ultium Cam, d'avoir deux membres de la direction venir répondre aux questions, je pense que ça a été bien apprécié. Puis c'est une formule qui devrait peut-être revenir justement à quelques occasions.
Oui. Avec Marie-Noëlle, on travaille à attacher des joueurs qui seraient intéressés à venir. Marie-Noëlle, une de mes collègues à la Société du parc. Et puis, plusieurs se montrent intéressés. Fallait quand même faire nos preuves au début, que les gens comprennent c'était quoi l'émission. Et puis là, ils vont se prêter au jeu. Je suis assez convaincu.
Alors, soyez des nôtres lundi prochain à midi. Merci encore, Donald, pour Le Parc en 30 minutes. On vous invite à nous écrire, à poser vos questions en allant sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes. Cliquez sur « Poser vos questions ». On peut le faire par texto, par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050. C'est Marc Rochette ainsi que Donald Olivier qui vous souhaitent une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.